La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Au menu de notre club cet après-midi, les avancées du cerveau avec une nouvelle collection qui paraît au Monde, une pièce de théâtre consacrée à Galilée et puis un nouveau magazine scientifique pour les 8-12 ans. Mes invités sont installés autour de la table et je vous les présente dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui on part en voyage dans le passé mouvementé de notre Voie lactée.
Oui Mathieu, on va s'immiscer dans l'intimité d'une danse, un flirt il y a 500 millions d'années entre notre galaxie et la galaxie naine du Sagittaire.
Fanny Boyon réalise ce club préparé aujourd'hui par Chantal Montagné avec Lucie Sarfati.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Et je salue mes invités cet après-midi, Malicia Mévancan, Lionel Naka, Jean Alibert, Hervé Morin, Sophie Bécherel. Bonjour à vous toutes
et
à vous tous.
Bonjour.
Et bienvenue, Hervé Morin, journaliste au Monde, au service Planète Science. Et vous lancez donc, Hervé, une nouvelle collection sur les grands défis de la science autour du cerveau, de la génétique et des biotechnologies. Donc c'est le numéro 4 hein, qui est en kiosque en ce moment, avec des sujets qui sont là bien au cœur de nos vies quand même. Hein.
Oui, on avait déjà parlé dans ces collections d'astronomie, d'astrophysique, de mathématiques, d'archéologie, et puis là, c'est une collection qui est plus centrée sur le vivant et notamment sur le fonctionnement du cerveau, sur les émotions, ouais. Etc.
Lionel Nakache et son paquet de chips qui est avec nous cet après-midi.
Je suis démasqué.
déjeuner. Neurologue et parrain donc, de cette collection. L'idée, Lionel Nakache, c'est de parvenir finalement à décrypter notre cerveau qui reste, vous le dites, l'organe le plus complexe du corps humain quand même. Hein.
Oui, c'est vrai, de par sa nature, sa composition, sa structure et tout ce qui peut participer, je pense, au fait d'aider les citoyens à s'informer de la nature, du fonctionnement de leur cerveau, qui est un des organes du corps, c'est pas le seul, mais qui est quand même pas totalement étranger à nos comportements, nos pensées, etc. Donc quand Le Monde m'a contacté pour parrainer cette collection, qui initialement est une collection espagnole, qui est encadrée par un comité éditorial extrêmement prestigieux, etc. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant.
Et puis, comme c'est aujourd'hui la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, on fera aussi le point avec vous dans quelques minutes. Sophie Bécherel, votre coup de cœur de la semaine.
Galilée, le mécano, une pièce de théâtre incarnée par un comédien seul en scène, Jean Alibert, ici présent, qui nous offre un Galilée qui est tout sauf ennuyeux et inaccessible. Jean Alibert.
Ben oui, c'est le but. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'histoire, dans cette histoire de Galilée, c'est à la fois ce qu'est Galilée et la façon dont est raconté Galilée. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que sinon, Galilée, je n'avais pas les compétences pour, c'était pas mon métier. Mais par contre, la façon dont on le raconte avec le théâtre récit écrit par Marco Paolini, ce grand auteur italien dans la lignée de Dario Fo, ça avait de l'intérêt.
Voilà. Eh bien, on va en parler avec vous longuement tout à l'heure. Et puis, Malicia Mévancan, vous êtes directrice éditoriale chez Milan Presse. Et vous allez nous parler de l'arrivée, on s'en réjouit, d'un nouveau magazine scientifique destiné aux 8-12 ans. Ça s'appelle Les Curionautes, le numéro 2 vient de paraître. Alors ça, c'est un peu la tranche d'âge idéale, finalement, pour s'immerger dans la science. Hein.
Oui, tout à fait, puisque les enfants entre 6 et 8 ans ont appris à lire et à écrire, à compter. Et puis là, à partir de 8 ans, ils sont en capacité de comprendre le monde, de se poser des questions et de comprendre les questions, les réponses qu'on leur fait.
On va voir les thèmes que vous abordez justement pour ces jeunes. Et puis on se retrouve donc tous ensemble dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Et à la une de la science, mais on peut l'envoyer. Non, c'était très joli cette valse qui partait. Voilà, une valse à 6 millions d'étoiles, puisque c'est ce que vous nous proposez aujourd'hui, Axel.
Et oui, avec la valse à mille temps reprise par la radio-télévision luxembourgeoise en 79, pour parler de ses travaux franco-espagnols parus dans la revue Nature. Grâce aux précieuses données du satellite Gaïa de l'ESA, ils décrivent comment notre Voie lactée et la galaxie naine du Sagittaire se sont embrassées il y a environ 500 millions d'années. Un flirt. Ils décrivent comment les étoiles une à une sont sorties de leur train-train galactique pour danser les unes avec les autres. Bonjour, Cécile Rellet.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne à l'Institut UTINAM, en direct avec nous depuis les locaux de France Bleu à Besançon. Et vous êtes une des auteurs de ces travaux. Alors peut-être pour comprendre cette danse, il faut d'abord se pencher sur la source de vos données, le satellite Gaïa, parce que sans lui, vous n'auriez jamais pu décrire cette chorégraphie.
Non, en fait, on a vraiment des données extraordinaires là avec Gaïa, à la fois en ce qui concerne le nombre d'étoiles qui sont mesurées, qui est vraiment incroyable, et la précision avec laquelle ces mesures sont faites.
Combien d'étoiles alors justement ?
Donc le deuxième catalogue là de Gaïa qui a été fourni à la communauté au mois d'avril, c'est un peu plus d'un milliard d'étoiles. Ce qui, pour rester quand même, ce qui est énorme et correspond à environ 1% seulement des étoiles de la Voie lactée. Mais c'est quand même un catalogue sans précédent. Et l'étude, le sous-échantillon avec lequel on a travaillé pour voir cette cinématique, les mouvements des étoiles, c'est 6 millions d'étoiles.
Alors comment est-ce qu'il faut imaginer ces événements, cette perturbation, si on revient à des mots un peu plus scientifiques que vous décrivez? Si on se plaçait loin de la Voie lactée, qu'est-ce qu'on verrait il y a 500 millions d'années?
Alors on verrait des petites galaxies, ce qu'on appelle des galaxies satellites, qui tombent en fait sur la Voie lactée ou qui tourbillonnent autour de la Voie lactée et qui se font manger par la Voie lactée. Donc elles sont disloquées par des effets gravitationnels, des effets de marée, et leurs étoiles sont arrachées. Elles vont petit à petit se mélanger aux étoiles de la Voie lactée.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'étudier ce moment précis? Parce que les données de Gaïa sont énormes, on peut faire beaucoup de choses avec.
On n'a pas cherché à étudier ce moment précisément. En fait, on a vraiment cherché à voir ce que pouvaient nous révéler les données Gaïa quand on regarde à la fois la position des étoiles, mais aussi leur mouvement. Et en faisant ça, on a découvert des structures très nettes, très précises, auxquelles qu'on n'imaginait pas du tout trouver. Et ensuite, donc, il y a eu une réflexion pour savoir qu'est-ce qui avait pu faire ces structures, qu'est-ce qui avait pu perturber les étoiles. Et on arrive, disons, avec des modèles, à estimer que c'est une perturbation qui a eu lieu il y a entre 300 et 900 millions d'années, qui coïncide aussi avec un passage de cette galaxie du Sagittaire au plus près du Soleil, donc qui est quelque chose qui a été estimé par d'autres études.
Donc on la connaissait avant, cette galaxie du Sagittaire, cette petite galaxie?
Oui, on l'a découverte en 1994, donc voilà, elle est connue. Il y a eu pas mal de modèles pour essayer de voir quelle est son orbite actuelle autour du centre de la Voie lactée. Alors, et donc c'est comme ça qu'on sait qu'elle est passée près du Soleil à cette époque.
Est-ce qu'elle existe encore ou est-ce qu'elle a fini d'être mangée par la Voie lactée alors?
Il en reste un petit bout, oui.
Ah oui, il en reste. Il en reste, hein. C'est assez récent en fait. Il va falloir encore pas mal de millions, voire de milliards d'années pour que vraiment ça soit complètement, que les étoiles de cette galaxie soient complètement mélangées à celles de la Voie lactée. Et en fait, on la voit en particulier sur l'image Gaïa, mais pas seulement. On voit un petit bout de cette galaxie.
Alors vous parliez
à l'œil nu, hein.
Vous parliez de ces figures particulières que vous avez obtenues, ces courbes de vitesse. On voit des formes, des volutes, des zébrures. Moi, j'ai vu des coquillages. Est-ce que c'est des choses qui étaient prédites par la théorie ou c'est ce qui fait l'originalité de votre travail?
Non, c'était pas du tout prédit par la théorie parce que on n'imaginait pas. Enfin, on n'a jamais eu ce genre de données pour autant d'étoiles. Donc, on n'imaginait pas qu'on puisse voir les perturbations, notamment dans la vitesse des étoiles. Et voilà, maintenant qu'il y a les données sont là et qu'il y a une évidence observationnelle, ça va permettre justement d'améliorer les modèles. Mais c'était vraiment une grande surprise.
Alors, une dernière question. Gaïa observe le ciel aujourd'hui. Et là, vous décrivez un événement qui est vieux, qui a plusieurs centaines de millions d'années. Comment est-ce que vous remontez le temps concrètement si on rentre un petit peu les mains dans le cambouis?
Donc ça se fait vraiment avec les modèles, hein, les prédictions des modèles on fait tourner des modèles, on retrace l'histoire de la Voie lactée, mais avec des équations mathématiques, des lois physiques, et ces simulations donc sont très évidemment en accéléré, hein, c'est des quelques jours de calcul pour pouvoir représenter des millions d'années, et on arrive comme ça à imaginer, disons, à trouver des hypothèses assez fortes sur le moment où ça s'est passé, avec bien sûr une incertitude assez grande, hein, sur le l'époque où ça s'est fait passer, puisqu'on arrive à quelque chose entre 300 et 900 millions d'années. Donc voilà, il y a encore un peu de marge et ça coïncide justement avec d'autres travaux qui montrent que c'est à ce moment-là que la galaxie naine du Sagittaire est passée près du Soleil.
Alors c'est toujours difficile de se projeter dans des échelles comme ça. Si on revient à la nôtre, est-ce qu'au niveau du système solaire, les choses ont bougé à ce moment-là?
Alors, en fait, les choses, oui, elles bougent. On est encore aujourd'hui dans cette vague, hein, un peu une onde, à la fois au niveau des positions des étoiles, mais aussi de leur mouvement. Mais individuellement, on le ressent pas, donc ça change rien. Ça
on
change
bouge
rien
avec le reste.
Voilà, on est dans ce petit mouvement ondulatoire.
Eh ben c'est bien agréable quand même. Voilà, cette petite valse des étoiles qui nous était offerte grâce à vous cet après-midi, Céline Rélé, puisque vous étiez donc en duplex des locaux de France Bleu à Besançon et vous êtes astrophysicienne. Merci pour ces explications. Et puis dansez bien ce week-end,
oui,
Axel.
On fait ça.
À lundi.
À lundi.
Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles, on se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tout tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Et vous êtes bien sur France Inter, c'était Joe Dassin avec Salut les amoureux.
Oh oh, voilà notre brillant scientifique.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Et dans notre club cet après-midi, les avancées autour du cerveau avec une collection d'ouvrages donc qui paraît avec Le Monde, une pièce de théâtre sur Galilée et donc un tout nouveau magazine scientifique pour les 8-12 ans et bien sûr vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Aujourd'hui d'ailleurs 21 septembre, journée mondiale aussi de la maladie d'Alzheimer. Donc vous pouvez poser vos questions à Lionel Nakache puisqu'on va en discuter avec lui dans quelques instants. Les défis de la science, donc c'est cette nouvelle collection proposée par Le Monde mais sous forme d'ouvrages qui sortent donc en ce moment toutes les semaines. Le quatrième numéro est arrivé dans les kiosques et vous en êtes le parrain, Lionel Nakache, on en a parlé tout à l'heure, vous qui êtes neurologue et chercheur en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et puis Hervé Morin, journaliste au Monde, au service Planète Science. Hervé, le Monde, donc ça n'est pas que la version papier au quotidien, c'est aussi d'autres types de formats comme ces livres qui vraiment sont imaginés comme des encyclopédies. Hein.
Oui, ça fait quelques années déjà qu'on est associé à cet éditeur espagnol, RBA. Ouais. Et c'était précédemment plus sur la science dure, entre guillemets, les mathématiques, la physique, etc. Et puis, cette nouvelle collection s'intéresse au vivant, au cerveau, à l'ADN.
Ouais. Quel boulot, hein. Mais les Espagnols font un travail incroyable là-dessus. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle Lionel Nakache, vous avez accepté d'être le parrain, parce que d'abord, le niveau est vraiment de très grande qualité. qualité.
Oui, moi j'étais impressionné par le niveau des ouvrages qui, en fait, qui évidemment, ce sont des ouvrages de vulgarisation, mais quand on les ouvre, en réalité, ils intéressent à la fois, je dirais, un grand public éclairé, mais ça va assez loin, en fait. On m'a souvent fait la comparaison en me disant, oui, est-ce que ça correspondrait un peu à ce qu'il y a un peu en premier cycle universitaire? C'est un peu plutôt de ça, en fait. Et à chaque fois, le volume, si, je sais pas si vous avez eu l'occasion de les consulter, même sur l'organisation du cerveau,
etc. Quand même, bien sûr, parler cet après-midi.
D'accord. Et ben, moi, je trouve que c'est assez rare d'avoir ce niveau-là et qui se décline sur 60 volumes. Ouais. J'ai pas lu les 60 volumes pour l'instant, mais ceux que j'ai vus, et notamment toute la, c'est vrai qu'il y a quasiment la moitié de la collection autour de, du système nerveux ou l'intelligence naturelle ou artificielle, etc. Ouais. Voilà, donc c'est une aventure. Alors c'est vrai, est-ce que c'est spécifique à l'Espagne? Je sais pas, mais en tout cas, c'est une, un bel exemple.
Et alors donc, il y a aussi un point sur l'actualité de la recherche, en tout cas.
Oui, nous, on accompagne chaque semaine dans notre
cahier... Une photographie de la science.
Dans notre cahier hebdomadaire, on essaye de trouver des... C'est pas très difficile, en fait. Chaque semaine, il y a des publications scientifiques qui sont en rapport avec, avec l'intitulé du volume.
Ouais. Et le cerveau, ça s'est imposé très facilement, évidemment, parce que c'est un organe qui intéresse tout le monde. Donc c'est à la fois le cerveau, la génétique et les biotechnologies que vous allez décliner. Donc 60 ouvrages, disait Lionel Lacache. Donc on en a un toutes les semaines en ce moment. Le dernier, c'est sur les émotions. Et le prochain, Hervé ?
Ça sera sur le génome humain. Et nous, on accompagnera ça avec un article qui fait le point un petit peu sur les zones d'ombre du génome humain, puisqu'on a l'impression que tout est décrypté. En fait, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à préciser.
Ouais, Lionel Lacache, on en a parlé déjà ici avec vous à ce micro, mais pourquoi c'est aussi important finalement de se tenir informé et de mieux comprendre aussi les rouages de notre cerveau?
Oui, écoutez, je pense qu'il y a plusieurs raisons sur lesquelles on revient souvent parce qu'elles sont importantes. C'est que ça, d'abord, ça fait partie de notre identité, certains des composants qui sous-tendent nos fonctions mentales. Mais il y a peut-être une autre fonction qui me semble très importante parce que souvent, on n'y pense pas intuitivement quand on ne connaît pas de l'intérieur ce domaine. C'est que, imaginons, on pense à la mémoire, par exemple. Je ne sais pas, moi, une des fonctions, je me souviens de ce que j'ai fait hier. Ma mémoire, voilà. On se dit, a priori, si on voit ce qui se passe dans le cerveau, pourquoi pas? Mais je vais trouver rien d'autre qu'un lieu cérébral. Je vais trouver une sorte de mécanisme cérébral d'une fonction psychologique, la mémoire, dont je sais déjà à peu près de quoi elle est faite. Ouais. Et le point que j'aimerais développer, rapidement, c'est qu'en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est que quand on va voir comment s'inscrit dans le cerveau la mémoire, pour prendre l'exemple de la mémoire, en fait, on part avec une sorte de définition psychologique initiale de la mémoire. On voit comment ça se passe dans le cerveau. Et par exemple, lorsque dans le cerveau, on voit qu'il y a des neurones de lieu, des neurones qui font le lien entre, en fait, entre notre navigation dans l'espace, où est-ce qu'on se déplace, et la capacité à se remémorer les événements qu'on a vécu dans ces espaces, ça vient immédiatement introduire un lien auquel on n'avait pas nécessairement pensé, entre espace et mémoire. Et une fois qu'on a ça en tête, quand on revient dans le domaine de la psychologie, de la pure psychologie, sans le cerveau, eh bien on se rend compte que la définition qu'on a de la mémoire a changé. Et j'appelle ça une sorte de vision un peu dialectique, c'est-à-dire, c'est pas de trouver juste comment ça se passe dans le cerveau, c'est qu'en prenant une question de psychologue, la conscience, la mémoire, l'action, les émotions, en voyant comment ça va s'inscrire dans les mécanismes et dans les lieux du cerveau, ça va modifier notre compréhension du phénomène même qu'on étudiait. Et en retour, quand on voit le cerveau, on le voit plus de la même façon, parce qu'on, donc il y a une sorte de cercle vertueux, si on veut l'appeler comme ça, et ça c'est quelque chose qui me semble extrêmement important.
Ouais. Comment d'ailleurs, Hervé Morin, vous faites le tri entre le nombre de publications qui sortent toutes les semaines, hein, vraiment sur cette question justement de notre organe cerveau?
Moi, je pense qu'on fait un peu comme vous le faites ici aussi, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Donc il y a les grandes revues qui publient des travaux. On essaye d'interroger les spécialistes pour savoir si c'est nouveau et intéressant. Et puis on fait le tri de cette façon.
Jean Libert, est-ce que vous êtes demandé ce qui se passait dans le cerveau de Galilée, justement, cet homme extraordinaire qui a vu des choses, imaginé des choses?
Je pensais en vous écoutant que les hommes de cette époque-là, qui n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour penser, avaient une force de pensée, mais qui était colossale, absolument colossale. À la fois pour penser, avec les moyens qu'ils avaient, avec la façon dont ils partageaient le savoir, avec le peu de gens... qui étaient, par exemple, les Coperniciens, à l'époque de Galilée, le texte le dit, il y en avait moins que d'ours dans les Pyrénées aujourd'hui. C'était comme une espèce en voie de disparition, c'est-à-dire quand un type comme Galilée voulait valider une théorie, il n'y avait qu'un seul Kepler ou un seul Tycho Brahe qui pouvait le lui confirmer ou pas.
Et c'était dangereux, en
plus. Et c'était très dangereux. Et donc, ils avaient une force... c'est-à-dire que la science à cette époque-là, c'est de la philosophie aussi. Ce sont des grandes consciences et des esprits qui sont impressionnants.
Et cette intuition incroyable du monde quand même, hein, à ces échelles aussi. Lionel Lacache, qu'est-ce qui se passe justement dans un cerveau tel que celui d'un chercheur comme Galilée? qui est capable justement d'imaginer le cosmos.
Ouais, bon, Galilée, on parle ici des géants, quoi, vraiment.
Mais justement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un géant?
Je suis d'accord avec vous. Vous savez, aujourd'hui, quand on passe une thèse de science, hein, en anglais, on appelle ça un PhD. PhD, c'est philosophical, c'est un doctorat de philosophie, c'est la philosophie naturelle. Ouais. C'est qu'effectivement, la science moderne vient d'un mouvement de la philosophie qui se tourne vers la nature en disant comment est-ce qu'on peut arriver à décrypter ces phénomènes?
Il y a une phrase, je termine vers la fin du spectacle, qui dit ce vieux, en parlant de Galilée, qui en affrontant un destin contraire d'une façon obstinée, a su rajeunir sa pensée. Et là, d'un seul coup, on voit la cure de jouvence.
Oui.
On voit comment être jeune à nouveau, qui en affrontant un destin contraire d'une façon obstinée, on se dit... C'est ce qu'il nous reste à faire.
Ouais. Sauf que Lionel Lacage, vous n'avez pas répondu à la question. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Galilée, quand même?
Je pense, alors c'est du freestyle, hein, c'est pas du tout entre
experts. Ah oui, mais ça m'intéresse quand même.
Mais moi, je pense que on parle comme ça de la recherche, mais on pourrait dire presque de visionnaire. On n'est pas loin, non pas d'une psychose, mais je veux dire par là, que vous parlez de l'obstination.
Ouais.
C'est que parfois, il faut avoir en tête un modèle, une hypothèse qui pour l'instant n'est pas validée par des données. Parce qu'on n'a pas les outils, par exemple, à un moment donné, pour être capable de la formuler, de la tester.
Elle est poétique.
Elle est poétique, elle a au sens même de création, de poésie, de création de quelque chose.
D'accord.
Et que là-dessus, l'obstination des grands chercheurs, elle a souvent quelque chose qui est sur la marge du délire. C'est-à-dire de se dire à un moment donné,
oui,
pour aller si longtemps consacrer une vie à tester une idée dont on a l'intuition et on ne sait pas, eh bien on est sur la frange de quelque chose qui est psychologiquement pas toujours simple. Et d'ailleurs, quand on a la chance, moi je ne suis pas Galilée du tout, mais de faire un métier où vous avez un pied dans la recherche et un pied dans la médecine, je le dis souvent, mais pour moi c'est aussi un confort, parce que être exclusivement dans l'univers de la recherche, alors, je ne parle pas de la recherche plan-plan, on fait tourner des papiers, etc. Mais de la recherche qui veut vraiment se frotter à des choses qu'on ne connaît pas encore.
Et c'est ça,
c'est extrêmement éprouvant, c'est extrêmement difficile.
Mais bien sûr, parce qu'il faut aller contre des dogmes aussi. Donc
contre les siens.
C'est quand même très
aussi,
compliqué. Ça.
Et sans verser dans le délire, justement, d'arriver à avoir cette combinaison, cette tension entre dire « je vais faire une hypothèse folle, mais je ne vais pas être fou pour la tester ».
Mais délirer, c'était Lacan qui le disait, c'est sortir du sillon. C'est-à-dire, à un moment... Pour être dans sa voie, il faut sortir du sillon.
Il faut sortir du sillon.
Et c'est là que naissent les grandes idées aussi, quand on sort du sillon aussi.
Voilà, hein. Sortir
quand
de la
ose,
boîte, arriver. Alors ensuite, c'est toujours, évidemment, ensuite tout le monde s'imagine ne pas être compris et donc nécessairement un génie. Mais, c'est pas toujours le cas, malheureusement.
Hervé Morin, c'est quand même finalement assez culotté de sortir un livre sur la conscience, par exemple, aujourd'hui. Le public a beaucoup d'appétit pour ces sujets-là aujourd'hui.
On va voir, hein, mais... Ce qu'on constate à travers ces collections, c'est que quand même, il y a une appétence très forte du public pour toutes les questions scientifiques.
Oui. Ouais. Et ça, dès le plus jeune âge, parce qu'il faut imaginer peut-être qu'un jour, on va voir justement à la une de cette revue Curionaute dont on va parler tout à l'heure pour les 8-12 ans, un numéro sur le cerveau. Ça pourrait être intéressant, Malicia.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Puisqu'en fait, on reçoit beaucoup de questions sur le cerveau, à quoi ça sert. Et surtout, la dernière en date, c'est « Peut-on vivre sans cerveau ?»
Ça, c'est une drôle de question.
Vous savez, immédiatement, moi, ça m'évoque évidemment une dimension qui est à la fois avant tout médicale, mais aussi scientifique. C'est que la vie et la vie consciente, c'est pas la même chose. Autrement dit, il y a des individus qui vivent au sens où ils ont des fonctions végétatives, leur cœur bat, leur circulation fonctionne, leur digestion fonctionne, etc. Même des réflexes du tronc cérébral, etc. vont fonctionner, mais ils n'ont pas de vie mentale consciente, pas de représentation des objets, d'eux-mêmes, de l'environnement. C'est ce qu'on appelle les états végétatifs. Alors parfois, on discute ou on dispute sur le nom qu'il faut donner, mais l'état, c'est-à-dire qu'on peut être en vie, éveillé, mais ne pas avoir conscience de soi-même ou de l'environnement, c'est-à-dire ne pas être capable de dire « je suis, j'existe, je suis ici », etc. Donc effectivement, on peut au sens vivre sans cerveau, mais souvent un enfant qui va poser cette question, il associe à vivre ce que lui en caméra subjective associe à la vision de vivre, et que vivre pour un enfant, c'est aussi avoir des idées, des pensées, des émotions. Et donc là, ça prend l'exemple de ce que je donnais, c'est que si on est capable d'expliquer ça, eh bien ça veut dire qu'on comprend que vivre, c'est pas nécessairement vivre tel que moi je vis à un moment donné, et qu'il y a des états qui sont dissociés. Je ne sais pas si c'est pour curieux.
En tout cas,
la réponse est oui. Sur le prochain numéro.
Ah ouais, voilà. Attendez, laissez-le un peu, parce qu'il a beaucoup de boulot à venir.
Mon déjeuner à manger, j'ai pas ouvert mes chips.
C'est ça. Alors, Jean Libert, pourquoi vous souriez comme
ça
quand vous entendez Lionel Lacage?
Il y a un exemple à la Maison Blanche en ce moment de quelqu'un qui réussit vraiment à vivre sans cerveau et d'une façon magnifique.
Malheureusement, je pense que c'est pire. Il a un cerveau.
Oui, alors ça m'intéresse.
Oui, bien sûr. Lionel Lacage, aujourd'hui 21 septembre, journée mondiale sur la maladie d'Alzheimer, pathologie qui inquiète beaucoup les personnes. Est-ce que d'ailleurs vous l'abordez dans ces ouvrages, Hervé Morin, ou pas? Est-ce que ça va venir? Est-ce qu'il y a des numéros?
Je ne pense pas qu'il y ait un ouvrage spécifique sur
Alzheimer.
Mais sur les questions de maladies neurodégénératives, bien sûr, ça sera abordé.
une maladie qui mobilise les familles, les aidants, qui connaît aussi heureusement des avancées scientifiques. Sur le front de la recherche, aujourd'hui, en ce 21 septembre 2018, Lionel Nakache, vous aviez d'ailleurs envie d'en parler aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui d'Alzheimer?
Je vous dis, en fait, même moi, je sors de ma consultation de neurologie, et c'est une consultation où je vois des patients qui viennent me voir pour des problèmes neurologiques, souvent neuropsychologiques, donc aussi des patients, pas tous, mais certains d'entre eux atteints de maladies neurodégénératives. Et à vrai dire, je savais pas que c'était aujourd'hui. J'avais oublié que c'était aujourd'hui. Ouais. Mais en arrivant, vous me l'avez rappelé. Eh bien, juste deux choses, peut-être, ou trois choses, très rapidement. La première, d'abord, j'ai pas suivi, mais il y a un élément un peu de polémique, par exemple, sur remise en cause de la maladie d'Alzheimer, etc., apparentée. J'ai pas vu les termes, donc je peux pas me prononcer exactement sur le terme du débat, parce que j'ai pas vu quel est le cœur vraiment de la polémique. Mais ce que je voulais dire, c'est de confondre le vieillissement normal qui existe. Quand on vieillit de manière ce qu'on appelle le vieillissement physiologique, on n'a pas la même forme d'intelligence, les mêmes styles cognitifs à 20 ans ou à 80 ans ou à 70 ans. Ça, et c'est en soi un sujet fascinant. Mais par contre, pouvoir véhiculer l'idée que ces maladies neurodégénératives, elles se limitent en fait à une sorte de vieillissement physiologique, c'est, sans faire du pathos, mais c'est faire injure aux gens qui sont malades. Moi, parmi les deux patients que j'ai vus, les 10 patients de ce matin, deux des patients souffrent de ces maladies. On parle de maladies dans lesquelles on perd le repère du temps, le repère dans l'espace, la reconnaissance des proches, les capacités, ce qu'on appelle les fonctions instrumentales, pouvoir lire, pouvoir parler, pouvoir réaliser des gestes sans être paralysé, etc. Donc ces maladies, évidemment, elles sont terribles. Elles sont peut-être aussi aggravées par le fait qu'on est dans une société qui valorise la performance et l'autonomie, et ça je le critique pas, c'est juste un... Et donc ça veut dire que valoriser l'autonomie et la performance, ça veut dire que être capable de vivre seul, parce qu'on veut vivre seul, mais en ayant ces troubles qui nous mettent en défaut par rapport aux performances, ça rend la situation sans doute beaucoup plus difficile à vivre que dans des sociétés dans lesquelles il y avait des traditions familiales ou une place pour ces personnes malades dans des tissus sociaux plus riches. Donc juste pour le faire très court, mais ces maladies évidemment, elles existent. On peut discuter le périmètre de leur définition, mais il faut vraiment rappeler les fondamentaux. Nous, on est aussi très nombreux à pas être très contents que certains médicaments aient été déremboursés par la ministre de la Santé, parce que c'est des médicaments qui sont pas miracles, mais qui ont été prescrits sur des études en double aveugle, des études correctes, et qui apportent un petite chose quand on sait les prescrire, qui est essentiel. Donc on le voit, donc avec les familles avec lesquelles on est en train d'expliquer pourquoi on va aller continuer. Donc voilà, ça c'est un problème qu'on pourrait discuter. Et sinon, heureusement, il y a beaucoup de pistes actuellement qui sont explorées, beaucoup d'essais en cours et en recherche, même sans Galilée, on sait jamais où va être la solution. Et quand la solution va arriver, mais il y a en tout cas beaucoup d'efforts qui sont réalisés.
Oui, Jean-Libert, allez.
Non, je voulais simplement dire que dans le texte que je joue, il y a un moment où on parle de ce vieux Galilée qui, à 74 ans, se remet à travailler. Il est aveugle. Il est aveugle, mais avec ses élèves, il multiplie les observations. C'est-à-dire que la performance, elle est aussi faite avec les autres.
Absolument.
C'est ce que je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Si Galilée avait été seul, absolument seul, il n'aurait peut-être pas pu écrire son dernier bouquin sur le discours sur les deux sciences nouvelles. Mais avec ses élèves, il a multiplié ses observations. On imagine cet homme aveugle qui écoute les commentaires de ses élèves et qui fait marcher son cerveau et qui fait avancer la science, même avec un handicap.
C'est une très belle image, parce qu'évidemment, on n'est pas un cerveau dans un bocal, on est dans des tissus sociaux humains,
exactement.
Et ces liens-là sont fondamentaux dans
les
approches à développer en dehors des EHPAD et des autres structures de prise en charge de ces maladies, absolument.
Allez, ça s'appelle Les défis de la science, donc cette collection du Monde, avec le 4e numéro actuellement en kiosque, c'est toutes les semaines, donc 60 numéros, Hervé Morin, on a toute l'année, justement, pour étudier le cerveau, la génétique, les biotechnologies et donc les découvertes scientifiques qui risquent de changer nos vies. C'est en ce moment donc dans les kiosques. Merci beaucoup. Et puis Lionel Nakache, on a quand même nous aussi un rendez-vous important à annoncer aux auditeurs. Puisqu'à partir du mois de novembre, on va présenter ensemble une série de conférences. Il y en aura 3 dans l'année. La première, ce sera le 6 novembre autour du cerveau, justement. Nous irons dans les secrets du cerveau. Et la première conférence, le 6 novembre, sera consacrée aux secrets de notre mémoire.
Voilà. Absolument.
Et ce sera retransmis, puisque ce sera au studio 104 de la Maison de la Radio, mais également dans 100 cinémas en France. Et la billetterie sera ouverte à partir du 9 octobre. Voilà, donc on va beaucoup se voir cette année.
On me demande déjà quels sont les cinémas qui sont les heureux élus. Voilà, quels
alors
sont les villes.
Alors un tout petit peu, mais le 9 octobre, ce sera officiel et on pourra lire aux auditeurs, mais on peut déjà noter ça sur nos tablettes. Première conférence le 6 novembre prochain. Allez, dans un instant justement, on part découvrir la vie de Galilée.
Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi quoi ça sert si c'est même pas pour leur montrer? Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh. Partie de ces gens-là, rassurée quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et puis à quoi?
La thune, c'était Angèle.
La tête au carré, le club.
Allez, dans ce club, Sophie Bécherel, comme chaque semaine, avec son coup de cœur. Et cette semaine, c'est du théâtre, au théâtre de la Reine Blanche.
Voilà, et c'est un gros coup de cœur, mais je pense que Jean Alibert l'a déjà
incarné. Ah, mais il nous donne envie, voilà, il nous donne envie, hein, sur Galilée.
Je pense que cette pièce de théâtre qui...
On veut tous y aller autour de cette table.
Elle fera l'unanimité. Et ça n'est d'ailleurs pas une pièce de théâtre tout à fait classique, puisque ça n'est pas un monologue, néanmoins vous êtes seul en scène, c'est un théâtre-récit. Alors expliquez-nous ce que c'est que cette forme de théâtre qui vient en fait de votre rencontre avec l'un des trois auteurs italiens, Marco Paolini.
Oui. Alors le théâtre-récit, ça a été initié à l'origine par Dario Fo. C'est-à-dire c'est une sorte de conteur, un cantastorie qui monte sur scène et qui se sert d'une histoire pour parler de ceux à qui il s'adresse. C'est pas forcément une histoire écrite, c'est une histoire qu'il a peut-être inventé, mais à l'intérieur, il place des éléments de récits qui concernent ceux à qui il parle. Donc les gens ont l'impression qu'on leur parle d'eux. Et donc le théâtre récit, c'est, disons que, en fait, cette pièce Galilée le Mécano, c'est comme une façon d'aller aux funérailles de Galilée. Parce que Galilée n'a pas eu de funérailles. Et c'est comme une sorte de réhabilitation qui est faite.
C'est pas un récit hein, de sa vie à sa mort. C'est vraiment, non. On est à côté de lui, on chemine non. avec lui. Et d'ailleurs, il y a plein d'anachronismes.
Oui.
On est avec Galilée. Ça, c'est
oui.
une prouesse de l'auteur.
C'est comme quelqu'un qui l'aurait connu, Galilée, voilà. et qui vient témoigner de ce qu'il sait de Galilée et de ce qu'il a vécu. Et il parle aussi de lui-même, ce narrateur. Et donc, parlant de lui-même, il rend crédible ce qu'il raconte. Il ne sait rien de la science, ce narrateur. Il a simplement une affinité très proche avec celui dont il parle, comme s'il l'avait connu. Et ça, c'est fascinant, c'est ce qui m'a plu. C'est pour ça que je suis allé chercher ce texte.
Galilée, pour nous, c'est le mathématicien, l'astronome, celui qui nous a légué la lunette astronomique. Pour vous, c'est qui Galilée? Parce que la pièce dit autre chose que ça.
Ben, Galilée, c'est que on pourrait penser qu'il y a une force de politique dans la figure de Galilée. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais
Départi de
couché,
son idée.
Qui s'est jamais couché. J'ai discuté avec Jacques Attali de ça parce qu'il a écrit des bouquins sur Giordano Bruno. Il me disait Giordano Bruno, c'est un grand Galilée, c'est un lâche. Et Galilée, c'est un lâche. Pourquoi? Ben, parce qu'il a abjuré. Moi, je pense que la grandeur de Galilée vient du fait qu'il avait inventé un objet qui pouvait donner à la postérité la preuve de ce qu'il avançait.
Donc la lunette,
la lunette avec laquelle il a réussi à voir les quatre satellites de Jupiter.
Ouais.
Et donc ça, c'est la grande force de Galilée. C'est cet aspect, ce scientifique non sacrificiel qui a pas fait don de sa vie et qui après avoir abjuré sort un des bouquins les plus incroyables, le discours sur deux sciences nouvelles, qui est les fondements de la pensée scientifique moderne.
Oui, parce que c'est ça qu'il nous lègue, c'est la méthode scientifique. C'est-à-dire un gars qui cherche...
qui est basé sur le doute et la vérification des expériences.
L'expérience physique.
Ouais. Voilà.
Le comment.
Voilà.
Pas le pourquoi.
Ouais, exactement. Toute la pièce est fondée là-dessus, sur ces deux questions.
Sur les trois personnages, avec une tablette dans les mains. Peut-être vous pouvez nous dire... le début de cette pièce.
Ce que je dis, c'est bonsoir, bienvenue au théâtre de la Reine Blanche, le théâtre des arts et des sciences. Et je vous fais attention à vos téléphones portables. Cette soirée, comment dire, c'est une soirée, il va falloir vous décider, il va falloir se mouiller, il va falloir prendre parti. Parti de qui? De Galilée, bien sûr. Mais attention, c'est pas facile de prendre le parti de Galilée. On pourrait penser aujourd'hui que ça va de soi, pas du tout. L'affaire Galilée... quoi ça sert de remuer tout ça? D'autant plus qu'a priori, je ne suis pas tout à fait la bonne personne pour aborder un tel sujet avec vous. Parce que moi, d'abord j'étais nul en maths, j'étais nul en physique, et en plus j'ai quand même réussi à rater mon bac philo. Donc si vous voulez, le cancre absolu, c'est moi. Et là, d'un seul coup, tout le monde se relaxe. Parce que finalement, quand on aborde un sujet scientifique, vous le savez tous mieux que moi, il y a une sorte de... Le public devient... se rigidifie, tendu...
On est au pied de la chapelle,
je
quoi.
Sais, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Je sais ou ouais. Je ne sais pas. Ouais. Et alors moi, je m'avoue comme le cancre absolu. Et l'intérêt de ce que je vais faire ne tiendra pas dans des connaissances dont je vais parler, parce que j'en donne, et tout à fait exact. Il y en a beaucoup. Mais c'est surtout dans la prise de parole que j'ai vis-à-vis de cette histoire... Qui dépasse même la question scientifique.
Alors je disais, il y a plein d'anachronismes, on parle de Doodle, on parle d'Erasmus, enfin c'est des choses évidemment qui parlent à plein de gens, et surtout ceux
oui,
qui
auraient... Oui, je parlais même hier soir de traverser la rue aussi.
Voilà.
Ah tiens, pour aller trouver du boulot.
Oui, c'est-à-dire, l'histoire c'était, dans le monde d'Aristote, nous avions tous une adresse en plein centre, dans celui de Copernic, nous sommes à la rue SDF. Alors comment s'en sortir? Eh ben comme disait l'autre, il suffit de traverser la rue. On s'est fait avoir, non?
Ouais.
Du coup, on se demande si le texte de l'Italien de Marco Paolini, il était déjà comme ça, parce que là, on a l'impression que c'est vous qui nous racontez Galilée, que c'est vous qui l'avez écrit.
Moi, j'ai bossé avec lui il y a un an et demi où il m'a transmis le texte. On a fait la Commedia dell'arte ensemble, Marco et moi, et il m'a transmis le texte comme s'il m'avait transmis son masque. Il m'a transmis son rôle. En fait, ce que je fais là, c'est une reprise de rôle. Une reprise de rôle en France. C'est la création en France, la première création d'un texte de Marco Paolini. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Un truc sûrement très profond.
Ce que vous y avez mis de vous, parce que moi, je vous disais, vous nous emmenez dans ce récit. Merci de beaucoup. Façon incroyable.
Qu'est-ce qui s'est passé là, Lionel Lacage, dans la tête de
Jean-Hubert? Dans le cerveau.
Violé son intimité.
Ah oui, c'est intéressant.
Voilà. Non, mais
c'est intéressant.
Pour aller oublier ce qu'il voulait nous dire.
Premièrement, je n'ai pas la réponse. Donc Deuxièmement, on peut faire des hypothèses. Ensuite, il faut les tester. Mais je pense que vous avez suivi comme un papillon ce que vous étiez en train de dire. Et donc ensuite, vous ne saviez plus quel était celui que vous avez mis de côté pour aller le retrouver après. Et quand vous l'avez relancé sur le petit indice, voilà. Ce qui prouve que vous l'aviez quelque part, mais qu'il fallait vous redonner le contexte, l'indissage.
Mais ça m'est revenu.
On appelle ça de l'indissage. Voilà.
On appelle ça comment ?
L'indissage, en fait. Et parce que parfois, ça marche pas. Hein. On dit, bah oui, bah non. Bah là, ça marche.
Voilà. Il était dans un petit tiroir.
Il faudrait vous avoir toute la journée. Toute la journée à connaître nous comme réciproquement. Le criquet de Gepetto.
Il faut avoir son Lionel Nakache avec son paquet de chips.
Parce que je voulais dire, c'est que l'auteur m'a appelé le lendemain de la première et il m'a dit « Sei contento, tu es content ?» Je lui dis « Ben oui, je suis content. Oh, mais quel texte, Marco, quel texte ?» Il m'a dit « Mais j'en ai rien à foutre du texte. Fais le tien de texte. Rentre dans l'histoire du canevas que je t'ai donné, mets tout ce que tu veux et réinvente-le. » Donc c'est ce que j'ai tâché de faire dans un premier temps en retravaillant la traduction. Et puis, au contact du public, il y a dans le texte des tas d'endroits où raconter des histoires contemporaines à travers la grande histoire de quelqu'un comme Galilée.
Il y a beaucoup de contenu quand même scientifique, oui. Il y a une chronologie, mais il y a beaucoup de choses effectivement très drôles, très émouvantes. Et puis alors, il y a une scénographie qui est, on va dire, épurée, mais extrêmement efficace.
Ah, donc, très, très
c'est
efficace.
Tout
Laurent
autour
Berger
de la lumière, donc c'est de la lumière et un cercle. Et ça nous rappelle que du temps de Galilée, bah, on était astronome et astrologue. Il a fait des horoscopes toute
exactement,
sa vie, le garçon.
Exactement. Et le cercle qui
ce serait mal vu aujourd'hui, hein, de faire les deux.
C'est vrai, mais...
Ah, oui.
Mais c'était pour survivre. Ouais, c'était pour. D'ailleurs, le texte le dit. Toute sa vie pour survivre, l'inventeur de la science moderne fera des horoscopes.
Ouais.
Et c'est tout... Toute cette vie non définie au départ qui est intéressante et qui se construit et qui devient extrêmement fondatrice pour les générations qui suivent, c'est une figure très forte et
il vous fait du bien. Il vous fait du bien, Galilée.
Ah oui,
tous les jours.
Ouais. Ah oui, il fait du bien. Oui, fait du bien.
Il vous nourrit aussi beaucoup.
Oui, parce qu'il devient comme une sorte de figure intérieure qui me porte, tout comme ça a porté l'auteur. C'est pour ça.
C'est donc en ce moment au Théâtre de la Reine Blanche, à Paris. Théâtre remarquable parce que justement, il met sur scène des questions de science.
Et ça,
il faut vraiment saluer ce travail du théâtre.
Et alors, surveillez,
20h45, 4 jours par semaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche à 15h. Jusqu'au 28 octobre.
Ouais. Et souhaitons que ça tourne, parce qu'il faut que la région voit ce spectacle.
Oui, parce que nous souhaitons dire à ce propos de ce spectacle, et pourtant, il tourne.
Bravo ! Quelle conclusion ! Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce club, et on parlera d'un nouveau magazine, Les Curieux Notes, pour les 8-12 ans.
Another day now. Fun at playgrounds. Bend the rules now. Know the rules now. Play the rules now. It's institutional. Resolutions. Lack of direction. Intersections. Pick up the gun, you know you're gonna use it. Know that gun, it's gonna get loaded. Say my name before you pull it. Too late, you know, just took that bullet. Look at front to back, through the shotgun shack. You decide to slow, to run fast, catching up with you, too slow to move, it's gonna get you, the playground rules, you can cry.
Shotgun Chuck, et c'était Néné Chéri à l'instant.
Le club. sur France Inter.
Allez, dernier sujet de notre club avant l'agenda scientifique du week-end que nous proposera Sophie Bécherel. Malicia Mevankan, vous êtes avec nous, directrice éditoriale chez Milan Presse et à l'origine donc de ce nouveau magazine Curionaute de science que tout le monde a d'ailleurs entre les mains. Ici, on est en train de feuilleter. Oui. Hein, le premier numéro est sorti, c'est même le deuxième déjà qui est dans les kiosques en ce moment. Racontez-moi d'abord comment on élabore le lancement d'un nouveau magazine. Comment est-ce qu'on explore la simple idée, possibilité de le faire?
Alors déjà, on travaille en collectif. On peut pas travailler tout seul, donc il faut être à plusieurs.
Ouais.
Et donc, on se dit comment renouveler ce concept de magazine scientifique qui existe déjà finalement pour
bien
la tranche d'âge. Donc comment être innovant, comment être original.
Donc on regarde la concurrence.
Donc on regarde la
concurrence. On fait une petite étude de marché.
Voilà, exactement. Et puis surtout, on fait appel à des experts de design, de carte mentale, des experts d'horizons très très différents pour se stimuler intellectuellement. Et puis surtout, on se pose des questions sur comment notre lectorat, comment les enfants entre 8 et 12 ans voit la science.
Alors là, on s'adresse à qui pour le savoir?
Donc là, en fait, on s'adresse aux enfants.
Directement.
Directement. Et on s'adresse aussi à leurs parents. Donc on s'adresse aux enfants directement parce qu'en fait, on reçoit beaucoup de questions d'enfants à la rédaction, hein, tout simplement, puisque on a déjà plein de magazines jeunesse chez Milan Presse, notamment Un jour une actu, Un jour une question. Et donc, je reçois 300 questions d'enfants sur ma boîte mail.
Tous les jours?
Non, par semaine, mais
c'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup. Et donc, avec ces questions d'enfants, déjà, on a un vivier, on voit déjà les questions qu'ils se posent et comment ils formulent leurs questions.
Ouais.
Par exemple, une question sur le Big Bang. Ils vont, déjà, ce matin, j'ai reçu une question. C'est quoi le Bing Bong? C'est pas le Bing Bang.
Ah,
c'est pas
joli.
Le Ping Pong, c'est le Bing
c'est
Bong. Donc, déjà, on voit mieux comment, quelles questions ils se posent. Est-ce que le soleil va s'éteindre un jour? Donc, même s'ils sont censés poser des questions d'actualité, en fait, pour eux, les principales questions sont des questions de science. Plus de la moitié des questions sont des questions de science.
Ah, mais ça, c'est génial alors.
Oui, oui. Donc c'est génial.
C'est une très bonne nouvelle.
Oui, c'est une très bonne nouvelle.
Lionel Lacache, vous en êtes compte, la moitié des questions posées par les enfants sont des questions scientifiques. C'est quand même génial, non?
Oui, c'est un fait en soi. C'est vrai.
C'est un bon signe. Et alors justement, cette question « Pourquoi la Terre est ronde ?», c'était une question que vous avez reçue à la rédaction?
Alors ça, c'était la question la plus posée par les enfants.
Ah bon?
Oui, on a rassemblé toutes les questions qu'on avait reçues sur un mois. Et c'était vraiment la première question, c'était celle-ci. La seconde, bah, c'est le numéro 2, mais qui étaient les premiers hommes? Et donc, on s'enchaîne comme ça, pourquoi la mer est bleue, etc.
Ouais.
Mais vraiment, c'était des questions des origines, je dirais.
Ça revient beaucoup, ça, oui.
Des questions existentielles, finalement. L'univers est-il fini? D'où je viens? D'où viennent les premiers hommes? C'est des questions sur eux.
Ouais.
Donc, à partir de 8 ans, ils se posent ces questions-là.
Ce qui est très encourageant aussi, c'est que finalement, même à l'heure d'Internet, ces enfants vous posent encore des questions. Ils vont vers la rédaction pour avoir des réponses, alors qu'il suffirait peut-être de taper tout simplement sur leur clavier pour le savoir. Mais il y a cette démarche quand même là qui existe.
Oui, alors il y a cette démarche. Ils sont encore petits, donc ils ne vont pas encore complètement sur les réseaux sociaux.
Mmh.
Et donc, ils ont besoin d'un adulte médiateur, en l'occurrence donc la rédaction, le journal, pour répondre à leurs questions. Et donc, nous, on est là aussi pour accompagner les enseignants et les parents. Parce que quand votre enfant vous demande le soir, après une journée de travail...
Pourquoi
la Terre est ronde?
Avant de se coucher.
Il faut s'armer de courage. Et c'est pas mal d'avoir justement un magazine comme Curionaute pour y répondre.
Alors justement, on va écouter une petite vidéo parce qu'il y a aussi un prolongement sur le web avec Curionaute. Hein. Il y a un site qui existe et en particulier des vidéos qui sont proposées pour illustrer un certain nombre de sujets.
Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi. Il faut que je comprenne tout, sinon je deviens incontrôlable. Heureusement, je peux compter sur Nora. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Dis Nora, comment la Terre s'est formée, hein?
Pas de panique, Curio, je t'explique. Tout ça s'est passé il y a très très longtemps.
Voilà, et pour la suite de la réponse, il faut justement lire le magazine ou aller sur les vidéos. Hein.
Voilà, il faut aller sur le site curionaute.com. Là, ce générique est très signifiant puisque vous avez la voix de Curio, la petite mascotte du magazine qui représente le Candide et la curiosité naturelle de l'enfant. Et puis vous avez avec lui Noura, qu'on a appelée l'exploratrice, puisque comme on se le disait autour de la table, en fait, on a travaillé, on s'est dit, bon, tous les enfants sont scientifiques, ils sont tous curieux dès qu'ils naissent. Et justement, on voulait dédramatiser la science, puisque les parents sont très inquiets, ont beaucoup de résistance par rapport à la science, savent que c'est un enjeu important pour leurs enfants, mais ont du mal à y entrer.
Ouais.
Donc, du coup, on a conçu ce magazine à partir de la curiosité des enfants, à partir des questions qu'ils se posent, et puis en bâtissant une bande de curionautes, de héros dans lesquels les enfants peuvent s'identifier, avec différentes personnalités. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, le regard poétique, contemplatif, le regard sens critique, le regard exploratoire, parce que oui, en effet, la science, c'est de la poésie, c'est
alors,
de l'exploration, c'est
bien
du courage.
On parle de cette carte mentale, là, justement, que vous proposez dans chaque numéro, parce que ça, c'est quelque chose qui pourrait faire réagir Lionel Nakache, notre neurologue. C'est une façon de proposer la connaissance en arborescence un petit peu aussi, hein.
Oui, ce qui était important pour nous, c'était de proposer une vision pluridisciplinaire des sciences.
Donc à partir d'une question, la Terre est ronde, il y a ensuite justement tout un tas de choses qui sont reliées, hein, comme par exemple Newton, Aristote, Yuri Gagarine, voilà, tout ça, ça fait partie d'une pensée finalement qui peut se développer autour d'une question.
Tout à fait. L'enjeu pour nous était de mettre en lien les différentes disciplines scientifiques et de montrer qu'il y a plusieurs réponses à une question. Et donc, l'enfant, selon son âge, va retenir de façon visuelle et synthétique une ou plusieurs réponses. Par exemple, j'ai vu un petit garçon de 8 ans l'autre jour qui, lui, avait retenu que non, elle n'est pas ronde, elle a la forme d'un pamplemousse.
Ouais.
Bon, déjà, ça s'est gagné. S'il a retenu ça, je trouve ça vraiment intéressant.
Lionel Nakache, justement, les images, ça c'est important aussi pour mémoriser des informations dans le cerveau.
Alors, les images ont un rôle important, évidemment, hein, mais c'est vrai que, comme vous le soulignez, le défi, je pense, c'est que d'un côté, vous avez la psychologie d'un enfant de 8 ans, de l'autre côté, vous avez un ensemble de connaissances auxquelles il n'a pas du tout accès, et c'est d'arriver à trouver une manière de faire rentrer une partie de ses connaissances, mais dans son système à lui, pas dans le vôtre, dans le mien, c'est-à-dire en se mettant à la place, donc ni complètement dire bah il y a rien à changer, tu peux continuer à penser le monde tel que tu penses qu'il existe, et inversement faire une violence d'arriver à transformer totalement de manière incompréhensible sa compréhension, c'est aussi une menace. Donc de trouver ce chemin intermédiaire, c'est très difficile, je pense, d'arriver à le, donc si on a envie de lire Curionote, de...
voilà. Malicia Mévancan, l'un des autres enjeux importants de ce magazine, c'est la place des filles aussi, hein, en science, hein, parce que ça, vous avez fait très attention à ça, hein.
Exactement. Donc il s'agissait de dédramatiser les sciences, mais aussi d'enlever ce clivage qui peut exister, littérature, science. La littérature, c'est pour les filles, et les maths et les sciences, c'est pour les garçons. Tout ça, non, c'est, il faut que ça vole en éclats. Donc, on voit vraiment que les filles, aujourd'hui, ont trop intériorisé le fait que les sciences, c'était pas pour elles. On le voit dans des études, hein, qui nous montrent qu'elles sont que 18% dans 14 pays à passer un bac scientifique. Donc ça, c'est... Et 2% à faire une maîtrise, alors que c'est le double chez les garçons. Donc je pense qu'en tant que médias et qu'adultes, on peut offrir d'autres modèles aux filles et leur dire qu'elles peuvent faire des sciences à travers, par exemple, des modèles inspirants comme les héroïnes qu'on peut avoir dans notre magazine, mais aussi on fait appel à des experts.
Comme Sylvie Vauclair, l'astrophysicienne, voilà, qui a supervisé ce premier numéro, et à chaque numéro, vous avez un scientifique référent justement pour vous aider à avancer dans les sujets. Voilà, ça s'appelle Curionote, le numéro 2 est dans les kiosques, et c'est pour les 8-12 ans, publié par Milan. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, et bon retour à Toulouse.
Merci.
Sophie Bécherel, avant de se quitter,
on fait un tour de France,
un agenda,
voilà,
ben oui, hein, avec des rendez-vous
Est-ce
scientifiques.
Est-ce que vous savez où se trouve la plus grande collection publique de vélos?
Non.
Qui a ici, qui là où on peut voir la plus vieille bicyclette, 1886, on peut voir un vélo où le cycliste se déplace à l'intérieur du vélo? Eh bien, c'est à Saint-Étienne, dans la Loire.
Ah, tiens.
Eh oui. Et puisqu'on parle beaucoup des vélos ces jours-ci avec l'annonce du plan du gouvernement, allez donc au musée d'art et d'industrie. Il y a donc la plus grande collection, unique en France, de vélos. Et aussi, en ce moment, une exposition sur le vélo urbain, donc les vélos de facteurs, les vélos pliants, les vélos électriques, les vélos chics, les vélos en bambou, les vélos d'acrobatie, enfin bref, il y a tout.
relevé libre parce qu'on n'en trouve pas. Donc
Je n'ai pas demandé. Bref, tout sur l'usage de la bicyclette, dont on ne dira jamais assez tout le bien que ça peut nous faire, hein, pour l'environnement, pour la santé, pour notre ligne, notre humeur, notre imagination, notre zénitude. Urbanus Cyclus, le vélo dans la ville, c'est jusqu'au 7 janvier prochain.
Bien.
À Dunkerque, plus précisément à Capelle-la-Grande, le Plus, le Palais de l'Univers et des Sciences, vous invite pour un week-end gratuit à découvrir sa nouvelle saison. Et on va commencer avec une nouvelle exposition temporaire à tous les goûts. C'est à partir de 6 ans, on est proche des petits curionautes, ketchup ou mangue, poisson ou salade. Hein, si vos enfants en sont toujours aux coquillettes pâtes ou bien aux gens aux hamburgers frites, allez donc jouer avec eux pour découvrir ces goûts.
Ah ben c'est précieux ça.
40 expériences.
Dunkerque.
Dont le concours de saveurs à l'aveugle. Oui, c'est à Dunkerque. Et enfin à Toulouse, Quai des Savoirs propose un week-end baptisé déjà demain, un saut dans le futur autour du numérique et des innovations. Alors sans surprise, on verra des robots, c'est chez vous, des drones, on pourra s'initier au pilotage, de la réalité virtuelle, des jeux vidéo. On peut dialoguer avec des chercheurs qui seront là, qui présenteront aussi d'ailleurs pour ceux du LAS leur dernier petit robot, Pyrène. Mais surtout, il y aura des circassiens avec 3 spectacles. Et vous savez que les circassiens, gens du cirque, voilà, entre leur imaginaire et leur maîtrise parfaite du corps, ils sont très très proches de la science parce que voilà, je trouve qu'ils partagent la poésie et la magie de la science. Et vous, vous nous dites.
Oui, en fait, il y aura des ateliers. La rédaction Curionote sera à Toulouse justement lors de cet atelier. Donc, vous pourrez. Vous pourrez les rencontrer à cette occasion-là.
C'est
vous
voyez formidable. Qu'est-ce que vous bourlinguez, Sophie Bécherel, toute la semaine pour nous. Mais c'est dingue, vous allez partout. Hein. Incroyable.
J'ai ma fusée.
Merci beaucoup. Et l'agenda, on le retrouve sur le site de La Tête au Carré, évidemment.
Sur le site.
Vous avez mis toutes les références. Merci beaucoup à tous. Passez un très très bon week-end. Et on va voir Jean Alibert sur scène avec Galilée.
À la Reine Blanche.
Voilà, à bientôt.